Mais qu'est-ce que c'est ça?
Hé, hey, mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh, ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour et bienvenue à l'émission Dossier bizarre. Ici Tristan Brunet-Dupont et hey, Jason Lévesque.
Oui, bonjour Monsieur Tristan Brunet-Dupont. Ça va bien?
Ça va bien toi?
Ah, il fait chaud.
Eh oui, c'est vrai qu'il fait chaud dans le nord, même dans le nord.
Eh, c'est fou, on bat des records de température.
Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Réchauffement climatique!
Eh oui, ah, on peut pas nier.
Aujourd'hui, Jason, on va parler d'un sujet qui me parle énormément parce que tu le sais que je suis un fan de super-héros.
Écoute, il y a plusieurs affaires, plusieurs éléments à présenter pour le sujet d'aujourd'hui. Premièrement, on débarque un petit peu, on sort de notre cadre habituel et on va pas parler de... Il y a absolument rien de paranormal dans ça.
Ah, ok, ouais, d'accord.
Zéro élément paranormal. Par contre... On est des conteurs, on aime raconter des histoires, Tristan. Bien et sûr. Celle-là, elle est incroyable. Une histoire absolument phénoménale, exceptionnelle. Il y a tellement d'éléments dans cette histoire-là, Tristan, ça se peut juste pas qu'il soit aussi inconnu, qu'il soit méconnu, ce personnage-là. Et c'est pas un personnage, c'est une personne qui a existé, mais il est plus grand que nature de par ses actions. Et malgré ça, on le connaît très peu.
Ok, un personnage.
Ben, on va parler de personnage. On commence avec personnage. Si je te dis un personnage qui représente un homme armé, un homme qui de lui seul peut affronter des armées, peut faire des centaines de prisonniers, détruire, jeter à terre une armée d'un pays au complet.
C'était Wolverine.
Ah, ben ouais, il y a lui. Mais il y en a un autre avant lui.
Ok.
Ben oui, un personnage. En fait, le premier film démontrait plus le côté ou les ravages psychologiques de la guerre. Avec ce personnage-là qui arrive dans un village.
Ah, Rambo!
Ah, ben voilà!
Rambo.
Et là, on a dit, ben mon Dieu, Rambo, c'est la machine à tuer. Parfaite. Faisons une suite et mettons-le seul face à l'armée de l'Afghanistan. Et là, ben finalement, Rambo est un homme seul face à une armée et il gagne!
Ben oui, parce que c'est...
Rambo!
J'adore les films de Rambo, j'adore.
Ben, Tristan, savais-tu qu'il y avait un personnage encore plus fort que Rambo qui a existé pour vrai et qu'il est québécois? Il est d'ailleurs surnommé le Rambo québécois.
Ah ouais.
Absolument, okay. On l'a surnommé le Rambo québécois. Il s'agit de monsieur Léo Major.
Ah oui, c'est ça. Ben, j'ai déjà entendu ça, mais je savais
le
pas
que c'était. Le nom te dit quelque chose, mais on connaît pas ce qu'il a fait. Et quand on regarde son parcours de vie, c'est juste exceptionnel. Là. C'est comme une affaire après l'autre, ça arrête pas. Ben, à un moment donné, il va s'asseoir, il va se reposer. Ben non, il continue.
C'est un héros de guerre de quelle guerre?
La Deuxième Guerre mondiale.
La Deuxième
Alors, aujourd'hui,
guerre mondiale.
On va survoler un peu la vie de Léo Major et quelques faits d'armes, parce qu'il y en a tellement, on pourrait faire un épisode d'une semaine complète, puis je pense qu'on n'aurait pas fini de parler de lui. C'est vraiment à ce point-là. Tout ce qu'il a fait durant la guerre, écoute, c'est... Je revisais mes notes tantôt, puis j'avais la chair de poule juste à lire ce qu'il a fait. C'est absolument exceptionnel. Alors, Léo Major, un jeune Québécois qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, on va regarder un peu d'où il vient,
ben
Léo,
oui.
Et comment il s'est retrouvé à aller faire la guerre.
D'accord, oui, au niveau biographique, il a grandi où, Léo
Major? Ben oui, Léo Major, en fait, il est né le 23 janvier 1921 à New Bedford, Massachusetts. Ah. Et là, tu me dis, il n'est pas Québécois!
Ben
oui, il est Québécois. C'est en fait, en 1921, son père travaillait sur les chemins de fer, la construction des chemins de fer, et il s'est retrouvé à aller participer à un programme d'échange pour amener une certaine expertise de nos travailleurs québécois aux États-Unis sur un chemin de fer là-bas.
Ah, okay, ouais.
Alors, il travaillait là, sur le Canadien National, pour le Canadien National, et on a prêté des travailleurs à une compagnie américaine qui construisait des chemins de fer. Donc, le père de Léo Major, qui s'appelait Achille Major, sa mère Amanda Sévigny, ont été aux États-Unis travailler sur le chemin de fer du côté du Massachusetts. Et durant leur période là-bas, Léo est né.
OK.
Léo est le premier d'une famille de 13 enfants.
D'accord.
Donc, il a eu 12 frères et sœurs. Il est né le 23 janvier 1921. En septembre 1921, ils reviennent à Montréal, reviennent au Québec, d'où ils viennent en fait, et ils reviennent travailler là, du côté québécois, alors que Léo n'a pas un an encore.
D'accord.
Durant les premières 14 années de sa vie, Léo va avoir, bon, comme je l'ai dit, là, 12 frères et 12 frères et sœurs.
C'est énorme.
Donc une famille, mais c'était ça.
Exact.
Dans ce temps-là, ils se regardaient, ils tombent enceintes. C'était des vrais hommes.
Ah, c'est
juste
fou.
Un regard, toi, chose, puis trois semaines après, il y avait un bébé.
Incroyable.
Donc, ils reviennent au Québec. Durant les 14 premières années de sa vie, Léo se retrouve là, avec une famille nombreuse, 12 frères et sœurs. Et Son père continuait à travailler sur les chemins de fer. Alors, on le sait, hein, à cette époque-là, puis il y a beaucoup, beaucoup de Québécois qui travaillaient sur les chemins de fer. On s'éloigne de plus en plus de la maison parce qu'on suit le chemin de fer. Donc, le père de Léo, Achille, partait pendant des longues périodes de temps. La maman restait toute seule à la maison. Donc, Amanda, là, c'est Vigny qui restait toute seule à la maison avec les enfants. Quand le papa revenait, le papa avait une certaine aversion pour Léo. Il avait 13 enfants, mais quand il revenait, il demandait toujours comment Léo s'était comporté. Et si Léo avait eu des mauvais comportements, il le battait à coups de ceinture. Il faisait également de la violence psychologique en lui disant « T'es un gros paresseux, tu feras jamais rien de bon dans la vie. Le monde dehors, tu vas voir, c'est compétitif, t'es un pas bon, tu seras pas capable de rien faire de bon. » Et pendant 14 ans, c'est le régime qu'il subit dans la famille, à la maison, avec son père qui le martyrise carrément là, à chaque fois qu'il revient du travail. Et pourtant, il ne touche pas à ses 12 frères et sœurs. C'est seulement Léo qui subit ce traitement-là. Et il tolère ça pendant 14 ans.
Mon Dieu,
c'est très, très difficile comme climat familial. Et ça l'a peut-être marqué Léo, hein, de se faire dire « tu feras jamais rien de bon ».
Ben, il y a comme un genre de contre-exemple, là, des fois, quand tu, quand tu te fais dire des choses comme ça de toute ta vie.
Montrer exactement que je suis capable de faire de quoi. Et ça l'a peut-être affecté, parce que après, là, quand on va arriver dans sa période militaire à Léo, tu vas voir, c'est écœurant.
Ah ouais.
Tu peux entendre quasiment une trame sonore en arrière de Hans Zimmer. Là, tu le vois, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est incroyable. Mais durant sa jeunesse, jusqu'à 14 ans, il tolère ça. À 14 ans, il quitte.
Okay.
Il quitte la maison familiale et là, il décide d'aller s'installer avec son oncle et sa tante pour sa tante Annie et son oncle Émile Major. D'ailleurs, c'est son oncle et sa tante qui sont parents de Aimé Major, qui est un chanteur de l'époque également, qui a fait sa marque dans la culture québécoise comme chanteur.
Okay.
Qui était le cousin de Léo Major.
Ah ouais.
Ça, je l'ai appris en faisant mes recherches. Oh,
il y a des liens.
Il y a des liens.
Le héros et le musicien.
Eh oui, voilà. Donc, un pacifiste qui jouait de la guitare pendant que l'autre tuait des Allemands. Donc, il va s'installer chez son oncle et sa tante à l'âge de 14 ans et plus capable de tolérer le climat à la maison. Continue à subir des violences de son père. Décide que là, ça fait. Je m'en vais m'installer avec mon oncle et ma tante. Et je vais travailler sur la ferme familiale. Travailler sur la ferme, puis bon, apprendre le métier de fermier. Bon, on va y faire ce qu'on doit faire sur une ferme, comme agriculteur.
Le neveu se propose pour être helper.
Voilà. À l'époque, son oncle et sa tante n'avaient pas d'enfants.
Okay.
Mais Major est venu au monde plus tard, donc le cousin de Léo Major. Alors, à cette époque-là, eux n'ont pas d'enfants.
D'accord.
L'accueillent dans la famille comme si c'était leur propre fils. Et bon, il a un beau climat familial avec eux. Alors, il passe 3 ans avec eux.
OK.
Durant cette période-là, rendu à 17 ans, il se trouve un emploi comme travailleur de la construction à la gare centrale de Montréal.
OK.
On a construit la gare centrale de Montréal en 1938, ou du moins la construction a commencé en 1938, tout près du centre-ville de Montréal. Et il commence à y travailler comme simple ouvrier, simple manœuvre de la construction. Et tranquillement, au fil des mois, ses contremaîtres, ses patrons disent... Ben Léo, là, ce petit gars-là, il a de l'énergie, il n'arrête pas, il travaille bien, il n'a pas peur de rien, il est toujours disponible, il travaille tellement bien, et là, il commence à gravir les échelons tranquillement.
OK.
Et plus ça va, plus on lui donne des responsabilités. Et là, on se rend compte que Léo, là, il n'a pas peur de rien.
Ah, ouais.
Alors, il devient dynamiteur. Il commence à jouer dans les explosifs déjà à 17 ans sur le chantier de la gare centrale à Montréal.
Okay.
Et les autres contremaîtres, les autres travailleurs sont très impressionnés par son sang-froid, son courage. Il n'y a rien qui fait peur. Il prend tous les jobs. On a besoin de quelqu'un pour... Ils n'ont même pas eu le temps de dire de quoi ils ont besoin. Il a la main levée.
Ah ouais.
Moi, je vais y aller.
Bon.
Il veut toujours y aller. Il est toujours disponible. Il travaille 6 jours semaine, 10 heures par jour à soulever des charges. C'est du travail physique de construction incroyable. Il fait 60 heures semaine comme ça avec une petite journée de congé. Et pendant sa journée de congé, il s'entraîne, il apprend la boxe.
Ça va, ouais.
Alors, c'est vraiment, là, il est un héros en devenir.
Ben oui,
on l'imagine, on dit, coudonc, d'où ce qu'il sort, lui.
Oh my God,
et même les plus vieux, ceux qui avaient beaucoup d'expérience, étaient impressionnés par le petit nouveau qui arrive et qui est aussi talentueux, aussi fort, aussi capable et qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux. Là,
amenez-en des obstacles.
Amenez-en des affaires. Besoin d'aller porter de la dynamite dans le fond d'un petit trou. Donne-moi ça, je vais aller te la porter. C'est pas grave, moi j'ai pas peur de ça. Il a peur de rien. Alors il impressionne déjà à l'âge de 17 ans durant sa période où il travaille sur la gare centrale à Montréal. On est en 1938, alors là, ça commence à être instable du côté de l'Europe. Hein. On commence à ressentir aussi du côté canadien, du côté québécois, que il y a quelque chose dans l'air, ça va pas bien. Là. Mm-hmm. On se dirige vers une guerre qui pourrait prendre de l'ampleur. Déjà, on commence à craindre un peu là, les effets de cette guerre-là sur notre Québec ici, même si on n'est pas touché directement. On le sait que ça pourrait venir nous toucher. Alors, Léo décide, à l'âge de 19 ans, en juillet 1940, de s'enrôler dans l'armée.
OK.
Alors, il s'en va, il dit « Moi, je veux devenir soldat, je suis quelqu'un qui n'a pas peur de grand-chose, alors allons à la guerre! » Alors, Léo s'enrôle en juillet 1940, il a 19 ans. Il est affecté au Royal 22e Régiment, célèbre régiment québécois.
Ben oui.
Le problème, c'est que après deux jours, c'est quand qu'on part, là? C'est quand qu'on va à la guerre, nous autres, là? Ben là, nous autres, on part pas tout de suite, Léo, mais il y a le régiment de la Chaudière qui est le prochain à partir. Ah ben là, vous allez me transférer là-dessus. Oh, moi, je m'en vais au régiment de la Chaudière tout de suite. Je veux m'en aller en Europe.
Son camp d'entraînement...
Lui, il voulait aller se battre.
Oui, OK.
Et il voulait aller se battre. Alors, ce qui arrive, c'est que, bon, il est à Valcartier, là, du côté de Québec, et on le transfère, on accepte son transfert pour le régiment de la Chaudière, qui est le prochain à partir en Europe. Et donc, il reçoit son premier entraînement des bases des forces canadiennes, finalement, à Valcartier, près de la ville de Québec.
Okay.
Mais il est affecté au régiment de la Chaudière, qui est le prochain régiment québécois à se rendre en Europe.
Mon Dieu, OK, oui.
C'est spécial, hein?
Ben oui, exact.
Moi, je vais aller me battre, là.
Pas de temps à perdre.
Arrêtez de m'achaler, là. Je vais pas faire de la paperasse, je vais aller me battre. 22 septembre, il quitte Valcartier après un entraînement le sommaire, son entraînement de recrue, un camp de recrue, comme on appelle. Il quitte Valcartier pour Sussex au Nouveau-Brunswick et il poursuit son entraînement jusqu'au 19 juillet 1941, donc presque une année complète. Et le régiment de la Chaudière embarque à bord du SS Strathmore en route pour la Grande-Bretagne. La traversée dure 8 jours et le 28 juillet, on arrive au port de Gourock, au nord de l'Écosse.
Ah ouais, OK.
Et on s'installe du côté de Aldershot le 31 juillet. Alors, il est enfin en Europe.
Ça, c'est en 1940?
1941. On est rendu en juillet 41. Alors, il fait son entraînement du côté de l'Écosse où l'entraînement dure 3 ans. C'est un gros entraînement. Il s'entraîne jusqu'en 1944. À défaut de 6 jours semaine, 50 semaines par année, il continue de s'entraîner à la boxe, à s'entraîner aux arts du combat durant cette période-là. Et Léo est un des seuls de son régiment qui parle anglais. Il a étudié en anglais quand son père est devenu protestant. Il a aussi eu de certains contacts avec des gens du côté des États-Unis parce que son père gardait contact avec les gens là-bas. Alors, Léo a appris l'anglais durant sa période de ses 14 premières années. Mm-hmm. Il a étudié à l'école anglaise parce que son père voulait qu'il apprenne l'anglais. Et Léo est habile pour se promener en Écosse, lui, puis jaser avec les Écossais, avec les Britanniques, puis les Américains qui sont là aussi, parce que c'est des bases militaires. Hein,
il y en a
partout en Grande-Bretagne. Alors, il peut communiquer avec les autres soldats. Alors, ça fait déjà de lui quelqu'un de très populaire dans son régiment, parce que quand un soldat trouve une jolie demoiselle au bar, il n'est pas capable de s'adresser à elle, ben Léo fait le contact entre les deux. C'est lui qui commande pour les gens au restaurant. Fait que Léo est déjà la vedette un peu de son régiment à ce moment-là. Parce qu'il est un des seuls là, qui est capable de facilement communiquer avec les gens là, du côté de l'Écosse.
Vedette pour les bonnes raisons, parce qu'il maîtrisait plusieurs arts.
Oui,
du combat.
Là, là, j'ai rien à dire de méchant celui-là. Zéro, c'est comme il est trop parfait, il m'écœure. Je me sens diminué là, à cause de lui.
Ça va être...
Il est trop bon.
De ce que tu me dis un peu avant, c'est ça, c'est que ça semble avoir été le cas toute sa vie. Là,
c'est incroyable. C'est presque difficile à croire qu'une seule personne a accompli tout ça. Déjà là, jusqu'où on est rendu. Là, il a à peine 10 ans. Lui, il doit être rendu à 21 ans à peu près. Ouais, c'est ça, 21 ans. Ah non, 20 ans. En juillet 41, c'est ça, il y a 20 ans. Il a déjà fait plus que ça. Moi dans toute ma vie. Là. C'est un petit peu triste. Là.
20 ans, j'avoue que c'est. 21 ou
21? Il a 20 ans. Là, okay. 41, il a 20 ans. Il est né en 1921. Là, on est rendu en juillet 1941. Okay, alors, il a 20 ans. Et l'entraînement dure 3 ans. Donc, durant la période, il s'entraîne énormément. En plus de faire 50 semaines d'entraînement militaire à 6 jours semaine, du lever du soleil au coucher du soleil, alors il ne chôme pas et Léo, il est en forme.
Ah ouais.
Il est en forme, quelque chose de rare. Vraiment, là, il est solide. Mm-hmm. Alors, pendant cette période-là, 3 ans de temps, on s'entraîne. On se prépare à quoi, Tristan? Au débarquement.
Ben oui, exactement, la fameuse journée...
On a empilé des militaires en Grande-Bretagne pendant 3 ans de temps. Parce qu'on savait qu'à un moment donné, on allait faire un assaut majeur et que cet assaut-là allait être un succès si on avait une masse incroyable de soldats à lancer. on en lance. Tuez-les, on en a d'autres. À un moment donné, vous allez manquer de balles, puis on va continuer à en envoyer. Ben, c'est un peu le principe de la chose.
Le fameux débarquement
de Normandie, c'est ça qui s'est passé là, quelques années plus tard, le 6 juin 1944. Durant sa période d'entraînement, Léo se lie d'amitié avec Willy Arsenault. Hey, en plus, Arsenault, il y en a plein dans
le coin.
Peut-être
vrai.
Qu'il y a un lien avec quelqu'un du coin. Willy Arsenault, qui est aussi un soldat canadien-français,
okay.
qui fait partie du même régiment, ils deviennent très amis. Ils deviennent les deux meilleurs chums du régiment. C'est Willy et Léo. C'est les meilleurs chums.
Okay.
Ils font des coups, puis ils ont du fun, puis ils sont amusants, puis ils sont fins, mais en même temps, ils nous taquinent, puis ils font des jokes.
Okay,
on a bien du fun avec Willy et Léo. C'est les deux meilleurs chums. Ces deux larrons, ils ont du plaisir ensemble. C'est comme la vie du régiment, c'est ces deux-là. Alors, ces deux-là sont amis, font partie du régiment. Et là, on se prépare au fameux débarquement de Normandie qui va avoir lieu le 6 juin 1944. Mmh. On parle beaucoup, hein, Tristan, parce que là, on arrive à une période critique, là, non seulement de notre histoire, mais de l'histoire de l'humanité.
Ben oui, bien sûr.
Ce qu'on sait du débarquement de Normandie, c'est principalement dans la culture populaire. Et la culture populaire du débarquement de Normandie, c'est des films américains.
Oui, oui.
À peu près juste des films américains. On a très peu de documents de divertissement canadiens qui vont montrer ce qui s'est passé du côté canadien durant le débarquement. Alors, habituellement, il y a comme 4 soldats canadiens dans tout le débarquement. Et le reste, c'est des Américains qui prennent toutes les plages d'assaut puis qui gagnent toutes les plages tout seuls pendant que les 4 Canadiens essayent d'attacher leurs bottines.
Exactement.
Les Français sont pas là, ils se sont perdus en mangeant du fromage.
Puis pendant qu'il y avait genre 10 fois plus de Russes qui étaient de l'autre bord de la...
Absolument.
Qui étaient en train de se battre depuis des années.
Ben voilà, on arrivait, là, on les prenait en serre avec les Russes qui arrivaient de l'autre côté. Et il y avait beaucoup plus que des Américains au débarquement. Il y a énormément de pays qui ont contribué en matériel, en soldats. Il y a eu énormément de vies canadiennes, des vies françaises, des vies hollandaises. Il y en a eu des vies qui se sont perdues là, et c'est pas seulement américain.
Alors,
c'est pas nécessairement juste croire ce qu'on voit dans les films. C'est sûr que les Américains vont mettre en vedette les Américains. C'est même de la propagande à un certain moment donné, ce genre de film-là, pour montrer leur puissance absolue, alors qu'ils n'auraient pas pu faire ça tout seul. Il y avait à peu près autant de Britanniques, ou presque. Il y avait énormément de Français également, hein, des Français qui tentaient aussi, qui voulaient libérer leur propre pays, qui ont contribué, souvent par la il y avait une rébellion qui se faisait en France. Donc, eux travaillaient aussi à tenter de miner les efforts des Allemands pendant qu'il y avait le débarquement qui se faisait. Alors, il y a...
Ben oui, exact.
Énormément de pays qui ont contribué.
C'est ce qu'on appelle les alliés, me semble, c'est ça?
Voilà, c'est les forces alliées. Mais quand on écoute un film américain, c'est les forces américaines puis 3-4 soldats d'un autre pays qui sont là. Alors que c'est pas du tout le cas.
Non, vraiment.
Il y avait énormément de Canadiens qui ont fait le débarquement de Normandie. La plage qui était assignée au régiment canadien, c'était la plage de Juno Beach.
OK, oui.
Où ça a été un carnage. Un vrai de vrai carnage, au même titre que la plage d'Omaha Beach. Habituellement, c'est celle qu'on voit dans les films.
Ben oui, exactement.
Omaha Beach, c'est où les Américains sont arrivés. Et là, on voit le massacre, le carnage, les pauvres Américains qui se font décimer. Mais pendant ce temps-là, sur Juno Beach, les Canadiens se faisaient décimer aussi.
Ah ouais, okay,
et sur d'autres plages, il y avait des massacres qui se passaient. Alors, c'est du côté de Juno Beach que notre Léo Major et Willy Arsenault vont débarquer avec leur régiment.
D'accord.
Et là, on est rendu... Vraiment, il s'en va au front. Il s'en va à guerre, notre Léo.
Ben
après 4 ans à fatiguer, s'entraîner.
Il a fait le débarquement.
Il a fait le débarquement.
Quand même quelque chose.
Déjà là, hein, encore là. Hein, déjà, il en avait fait plus que nous deux combinés avant d'arriver là. Mais là, il a fait le débarquement en plus. Fait que là, on est disqualifié, Tristan.
Exactement.
Alors, Léo fait le débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Et là, on est rendu là, on va se permettre une petite pause.
OK, ben c'est bon. Ben, je te dis que j'ai...
C'est comme un moment, là, c'est le climax de son histoire.
Rambo, il arrive dans le bois.
Ah là, il arrive pour vrai. Là, c'est Rambo. Là, c'est Rambo.
Mais c'est tellement... J'ai tellement hâte de voir là, tout ce que tu vas me raconter.
C'est le soldat qui se prépare et qui a hâte d'y aller. Là, c'est Rambo qui est né. Là, il est là.
Ah, le pire, c'est que je pense qu'il y a le ministère grand-père qui a été dynamiteur, Jason.
Ah ouais!
C'est peut-être lui.
Là, c'est peut-être lui, hein? Faudrait regarder la généalogie.
Ben, c'est drôle, mais pour vrai, avant d'aller à la pause, vite, là, je connais bien, tu sais, dans l'histoire du Québec, il semble qu'il y a des phénomènes de même. Tu sais, je pense à Louis Cyr, qui était juste l'homme le plus fort du monde,
juste
personne l'accotait, tu sais. J'ai connu du monde aussi proche, quand je m'entraînais à un gym, c'était un champion de boxe canadien qui avait comme 20 ans, un Québécois. Puis lui, c'était comme le meilleur boxeur canadien, puis personne ne le savait. Puis il donnait des cours dans un gym, mais tu sais, en même temps d'aller à l'école, puis de s'entraîner, puis de travailler.
On a tendance à oublier nos propres héros. Hein.
Ouais.
On a tendance à s'identifier beaucoup à des héros qu'on voit énormément dans la culture, mais on a tendance à ne pas regarder autour de nous. Et je te dis, Léo Major, ça fait pas très longtemps que je connais l'existence de ce bonhomme-là. Et j'en apprends encore, et c'est incroyable, c'est absolument incroyable. Écoute, je veux dire, on ferait un film avec ça, là.
Ben oui.
Puis il y a des gens qui diraient... T'as un peu exagéré là, ce que vous faites, les gars. Moi, je fais très. Ralentissez un petit peu. Là, il est trop bon, votre gars. Là. Ralentissez ça un petit peu. La foule ne créera pas. Là. Ben, alors c'est... que c'est vraiment ce qui lui arrive.
Ah, c'est fou. On courte pause, Jason, puis on revient tout de suite après.
Absolument.
Les dossiers bizarres est une présentation de.
Ce soir à Denis le Lutin, je reçois une femme qui a déjà gardé le chien d'un homme qui était le troisième voisin de quelqu'un, qui a été opéré par un médecin qui a déjà pris l'avion avec l'ancien chanteur d'un groupe de musique, qui a été à l'école avec le cousin d'une dame qui faisait du ménage dans une caisse populaire où a travaillé en 1961 le directeur d'un organisme communautaire qui aurait possiblement vendu un manteau à un homme réputé pour boire du café dans un commerce que fréquentait un présumé lanceur de javelot médaillé d'or.
Ne manquez pas ce soir sur les ondes de C'est Noël, Denis le Lutin dès 20h. On sait bien pas de quoi il parle, nous autres non plus.
Il a remporté un concours de mangeurs de hot dog organisé par le frère du chien qui joue dans des films à la...
Et nous sommes de retour à l'émission Dossier Bizarre. Aujourd'hui, on sort un peu des sentiers battus, Jason.
Oui, pas de paranormal.
On parle d'un...
Mais c'est difficile à croire.
Oui, ben c'est ça.
C'est pas du paranormal, c'est du réel. On le sait, c'est prouvé que c'est vraiment arrivé, l'histoire qu'on vous raconte. Mais elle est difficile à croire. Des fois, je pense qu'elle est plus dure à croire que certaines histoires paranormales qu'on a pu raconter.
Puis, qu'est-ce qui est bizarre aussi, je dirais, c'est qu'on le connaît pas aujourd'hui. Donc, ça aussi, c'est bizarre.
Très peu connu, mais en Europe, comme je vous ai dit, Léo Major a une fête à son nom, ou du moins une journée où on l'honore en Hollande.
Ah ouais, okay.
Puis, je vais vous expliquer pourquoi durant l'histoire, parce que c'est comme le fait saillant de cette histoire-là. Là. C'est comme le top.
Okay.
Le top du top, là, quand on arrive là, vraiment, là, la transformation en Rambo, elle est complète.
Ben là, justement, là, je veux tout savoir. Parce
tu veux
que là,
savoir, hein?
Là, on est à...
là, on est le 6 juin 1944. Léo arrive sur la plage de Juneau en compagnie de Willy Arsenault, son meilleur chum, avec le régiment de la Chaudière.
OK, oui.
Ils sont accompagnés des troupes canadiennes anglaises, le Queen's Own Rifles of Canada, qui est un autre régiment, mais du Canada anglais. Alors, on a les troupes canadiennes françaises avec le régiment de la Chaudière, et on a également le Queen's Own Rifles of Canada. On a le 22e, le Royal 22e ont aussi participé, mais ils sont un peu plus loin, ils sont pas ensemble. Combinés ensemble, on a ces deux-là, les Canadiens français et les Canadiens anglais.
D'accord.
On arrive sur la plage de Juneau. Au moment de débarquer, on a quelques soldats du régiment de la Chaudière qui réussissent à se faufiler,
okay.
Alors que le reste des deux régiments, eux, sont coincés. Sont coincés, ils viennent de débarquer, puis comme on le voit souvent dans les films, hein, ils sont cachés,
ouais.
Parce que là, il y a des mitraillettes qui tirent sans arrêt, ne peuvent pas bouger sans se faire blesser ou se faire tuer. On est coincés, là.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui arrive avec notre Léo? Léo, il a 23 ans à cette époque-là, d'ailleurs, en passant, là. Hein, c'est juste pour tourner le fer dans le fil, c'est comme 20 ans de moins que moi, mais bon. Léo réussit avec quelques soldats, 5 autres soldats de son régiment. Il réussit à se faufiler. Il détruit le mur d'un bunker qui habite une des mitrailleuses qui est en train de canarder ses collègues sur la plage. Et il y a une espèce de grue, là, parce que bon, on avait du matériel, là, de la machinerie lourde également. Il y a une grue qui réussit à se rendre jusqu'à eux. On détruit le mur complètement du bunker et Léo capture les Allemands qui sont à l'intérieur et qui tirent sur ses collègues, permettant à ses collègues de continuer leur avancée.
Ah ouais.
Okay. Léo avec 5 collègues.
Déjà, première
action. Ils sont juste 6. Réussissent à mettre une mine sur le bunker. Réussissent à percer le mur. Et là, ils font signe à la machinerie lourde. Venez-vous-en. Réussissent à complètement défaire le bunker et à capturer les Allemands à l'intérieur. Tout ça, après avoir débarqué.
OK, déjà, ça passe en
part. Ben là, attends un peu. C'est la même journée. En après-midi, qu'est-ce qu'il fait? On dit, hey, Léo, tu vas aller faire une petite mission de reconnaissance. On veut savoir qu'est-ce qu'on a comme force allemande un petit peu plus loin. Parce que là, il y a encore des bunkers à détruire. Mais eux autres, leur coin de plage est relativement tranquille.
OK.
Fait qu'on dit, tu vas dépasser la ligne ennemie un peu. Et tu vas aller voir. Léo, Major, sa formation, c'est sniper, tireur d'élite.
Ah ouais, OK.
Il est aussi un expert en reconnaissance, en combat rapproché et en explosif.
Okay,
donc
ouais.
Il fait de la reconnaissance, on lui dit tu vas partir avec un collègue, avec un autre soldat dont on n'a pas le nom, donc c'est pas son chum Willy, c'est un autre. Vous allez aller voir les gars, puis allez juste voir, mm-hmm. Allez checker, là, voyez-vous quelque chose.
Reconnaissance.
Ouais, c'est ça, juste la petite reconnaissance de bord, juste savoir est-ce qu'on peut avancer de manière relativement sécuritaire, pas à faire 100 km, on veut juste dépasser un petit peu la ligne. Alors ça c'est la même après-midi, là. Ils viennent de débarquer, ouais. Ils viennent capturer un bunker, ils viennent faire des prisonniers, puis là, on dit Léo, hey, tu vas voir là-bas s'il y a du monde. Durant sa reconnaissance, écoute, là, c'est fou, là, déjà là, ça a juste pas d'allure. La même journée, donc, la mission de reconnaissance, il aperçoit un Anomag 251, qui est un char allemand avec des chenilles en arrière, des pneus en avant. Comme on voit souvent, là, c'est des chars semi-blindés qui sont là, eux autres, pour détruire les blindés.
Ah, OK,
ils sont très rapides. Et là, il aperçoit ça. Il dit à son chum, « Hey, on le pogne-tu? » Ah ben oui, on va le pogner. Fait que Léo va se cacher d'un petit buisson avec son ami. Et là, il attend que le char passe devant. Quand le char passe devant, il tire sur le conducteur, mais pour le blesser. Il veut pas le tuer parce que lui, il sait pas chauffer ça. Fait qu'il dit faut le blesser pour qu'on puisse après ça l'avoir comme conducteur. Et son collègue tire le mitrailleur qui est sur le char blindé et le tue.
Ok.
Il reste des gens à l'intérieur, mais là, le pilote ou le conducteur est blessé. Le mitrailleur est tué. Alors là, ils ont comme plus moyen de défense. Léo et son ami rentrent dans le camion et là, prennent le contrôle de la chose et disent là, hé, personne bouge. On réquisitionne ça, nous autres, là, puis on le ramène sur notre bord. Alors, il embarque avec le conducteur et lui explique où il doit se rendre pour retrouver son commandant. Il dit, on a capturé votre véhicule, là, je prends le contrôle, tu vas conduire jusqu'à mon commandant, on s'en va te porter. En chemin, il croise une unité canadienne, fait que là, il sort et il leur fait signe de tirer pas. On est à la même gang que vous autres. Fait que là, le chef de cette unité-là, il dit, oh, c'est un beau truck, ça. Moi, j'aimerais ça de l'avoir. Et Léo refuse à un supérieur de lui céder le camion.
Ah ouais?
C'est moi qui l'ai pogné, c'est moi qui le ramène. Il tient son bout et il le ramène lui-même à son commandant.
Il voulait aussi, tu sais...
Il voulait être reconnu pour ce qu'il avait fait. Il était fier de son coup.
Ben, il a mis sa vie en jeu aussi.
Ben voilà, mais il a fait de l'insubordination à un supérieur pour dire, c'est mon camion, c'est moi qui le ramène. Il ramène le camion et au moment où on décharge le camion, on se rend compte que le camion est rempli d'équipements de communication et de livres de code.
Ah ouais?
Il vient de faire un coup de maître, il vient de saisir les livres de code allemand pour cette portion-là.
Ah my god!
Alors déjà là, ça c'est la première journée du débarquement.
Ce qui va clairement aider pour la suite des missions, l'émission future et tout ça. Ben, oui.
Ben voilà! Alors, c'est quand même assez particulier.
Mais tu sais, je m'attendais au pire à ce que tu me dises... tu sais, il a croisé un Allemand, puis il a réussi à le descendre, tu sais. genre, que tu me dises qu'il revient avec un tank, c'est tellement épique, pour vrai, c'est fou.
Ah non, c'est fou, là. Puis là, c'est juste le début, là. C'est vraiment juste le début de ton aventure. Le 24 juin, donc, 24 juin, jour de la Saint-Jean,
ben oui.
C'est la raison un peu pour laquelle on fait cette émission spéciale-là, d'ailleurs. On est le 25 juin, c'est la fête nationale du Québec cette semaine. Alors, je me suis dit, pourquoi pas trouver un sujet tout québécois? Et un sujet qu'on connaît moins bien. On en cherche des héros, hein.
Ben
on a souvent des héros politiques, des héros culturels, des grands penseurs. Mais des héros comme ça, là, on n'en a pas au Québec. Ah. Ou en, du moins, on les connaît pas, ces héros-là. On est un peuple pacifique. On n'est pas nécessairement des guerriers. Mais d'en avoir un de même, il me semble que ça fait du bien.
Ben oui, exact.
Il me semble que ça fait du bien. Fait que le 24 juin, jour de la Saint-Jean, 1944, Léo et quatre soldats sont affectés à une mission de reconnaissance des lignes ennemies. C'est à la bataille de Caen. Ils arrivent face à face avec une patrouille de la 1ère Panzerdivision, c'est des tanks allemands, composés de 5 soldats allemands. Les soldats canadiens tirent sur la patrouille et tuent 4 soldats sur le coup. Le 5e soldat, mortellement blessé, réussit à lancer une grenade au phosphore. Dans l'explosion, Léo Major est blessé.
Ah non!
Il est blessé à l'œil gauche. Il va perdre son œil.
Ah ouais.
Il est par la suite transporté dans un hôpital de campagne afin d'être examiné. Le médecin qui le soigne lui déclare « Mon ami, la guerre est finie pour vous. Vous allez retourner en Angleterre. » Et ce à quoi Léo Major a répondu « C'est impossible, monsieur. Je suis un tireur d'élite. Dans ma section, ils ne peuvent fonctionner sans moi. Mon œil droit est parfait et c'est l'œil que j'utilise pour tirer. »
Oh!
C'est fou! J'en reviens pas encore.
C'est tellement épique, c'est du épicness. J'aime ça.
C'est un vrai de vrai. Là.
J'adore.
Alors, il décide de rester et il refuse d'être évacué. Le médecin le renvoie à son unité après lui avoir fait un bandage avec un élégant cache-œil. Il a de l'air d'un pirate en plus. Là, il a le look là, du badass. Il a de l'air d'un vrai. Là.
Exactement.
Il ressemblait à un pirate. Alors, c'est un peu ce que tout le monde dit là, quand on le voit. Léo continue son service comme éclaireur et tireur d'élite malgré qu'il n'a plus qu'un œil.
Ah ouais.
Il a complètement perdu l'usage de son œil gauche. L'œil gauche ne reverra plus jamais. Mais il continue quand même son travail d'éclaireur et de tireur d'élite.
C'est fou. C'est exactement comme dans le film 300. Il y a comme un 300, un spartiate qui se fait comme tu perds un œil. Puis le Léonidas, il dit « Tu ne peux pas continuer. » Puis là, il dit « Ah, mais Dieu m'a fait la grâce de m'en donner deux.
» C'est un peu ça. C'est un peu ça qui arrive avec notre héros d'aujourd'hui. Alors, il est retourné à son unité. Il continue à travailler.
Ah ouais.
Alors, voilà. Bataille de Lescaut. Il capture 93 soldats. Dans la nuit du 30 au 31 octobre, lors de la bataille de Lescaut dans le sud des Pays-Bas, Léo Major capture 93 soldats allemands à lui seul. Et c'est ce qui lui a valu le surnom de Rambo.
Ah, ouais, ben oui, c'est clair, là. Ben voyons donc, 93, c'est que quoi? Comment il a fait ça?
Écoute, c'est assez particulier ce qui est arrivé, en fait. Léo a été envoyé en reconnaissance. Là, j'essaie de retrouver le nom du village parce que, bon, on est aux Pays-Bas, hein. Fait que c'est des noms qui sont pas toujours faciles à prononcer. Il a été envoyé en reconnaissance avec son bon chum Willy.
Ok, oui.
Avec son bon chum. Et puis écoute, là, ça fait tellement film américain, là, mais tellement film américain. Alors, il est envoyé en reconnaissance à une ville des Pays-Bas, à Zwolle.
Ok, d'accord.
Et il arrive là avec son ami et son ami se fait tuer. Oh. Willy, il est mort.
Non.
Léo, il est pas content. Léo, il est fâché. Il est vraiment fâché. Qu'est-ce qu'il fait, Léo? Au lieu de s'en retourner et de dire « Hey, les gars, mon chum, il est mort, là, allez-y pas, là, c'est dangereux. » Lui, il décide qu'il rentre dans le village. Il se met à tirer partout. Il lance des grenades à gauche, à droite, dans des maisons vides. Il fait le plus de bruit possible. Il crie comme un dément en tirant partout. Quand il croise des soldats allemands, il leur dit qu'ils sont encerclés, qu'ils sont coincés. Et il fait ça toute la nuit.
Ah!
En courant dans le village et en faisant du bruit, il fait tout exploser ce qu'il peut. Et il envoie les soldats dans le même coin tout le temps. Quand il en croise, il dit « Vous êtes encerclés, les gars. Ah ouais, dans le coin, sinon je te tire. » Les soldats écoutent et s'en vont dans le coin.
Oh my
et
God!
Au petit matin, Léo est tout seul. Et il a capturé 93 soldats et il a libéré la ville à lui tout seul. Parce qu'il est en...
Je viens d'avoir un frisson.
C'est incroyable. Il est vraiment en colère. Il est vraiment fâché. Ils ont tué son ami.
Ben oui.
Il prend pas.
Ah,
et là, il décide que lui, là, il va les faire payer. Il a perdu la tête complètement.
Ben, c'est
et
ça.
Toute la nuit, il s'est promené dans le village en tirant partout. Puis si les soldats coopèrent pas, paf, tain, toi. Ah ouais, prochain. Puis il se promène comme ça et il réussit à créer l'impression qui a un régiment complet qui prend d'assaut le village alors qu'il est tout seul.
Ah, c'est donc ben fou. C'est vraiment fou, j'en reviens pas. J'imagine juste tellement la scène en ce moment, là. De comme il cherche des grenades, il est découpé le tout, il lance, il se pointe avec deux grosses mitraillettes, il tire partout, tu sais. En criant aux Allemands, genre, « You're surrender! » C'est pas un soldat qui arrive... Avec...
Ben lui, il avait de l'air tellement convaincant.
Ben c'est ça, exact.
Puis là, c'était comme moi, je recule pas, là. Ma gang est en arrière, là.
Exactement.
Vous êtes encerclés, là. Achale-moi pas, mes chums s'en viennent, là. T'es mieux de t'en aller si tu veux vivre, mon homme.
Il devait faire peur aussi, quand même.
Il devait être assez impressionnant. Avec le bandeau sur l'œil. Écoute, là, depuis l'âge de 14 ans qu'il s'entraîne, depuis 17 ans, il a travaillé dans la construction des 60 heures semaine. Il s'est entraîné avec un entraînement militaire pendant 3 ans suite à ça.
C'est un surhomme.
Il devait être là, il devait pas avoir beaucoup de gras sur le
non,
corps.
Non, c'est ça.
Il devait être assez impressionnant. Et de par sa prestance, et comme il est en colère, puis lui, il est prêt à mourir. Là. Lui, il vient de perdre son meilleur ami.
Ouais.
Il n'a plus rien à perdre.
Non, c'est ça.
Moi, j'y vais, puis il arrivera ce qui arrivera. Fait aucune trace de peur. Aucune. Fait quand tu vois quelqu'un comme ça, puis il faut croire, tu sais, dans les films, on voit les Allemands comme des grands méchants machiavéliques tout le temps. C'était des soldats, c'était des gars de 17 ans, de 18 ans, qui avaient leur peur aussi, qui combattaient, qui ne savaient pas toujours pourquoi. Tu vois ça arriver, là, tu dis, moi, je prends pas de chance. Je vais lâcher mon gars de m'offrir ce qu'il dit. Parce que lui, il arrive, puis. Il reculait pas.
Exactement.
Il avait aucune intention de reculer.
C'est aussi une force de persuasion, c'est ça le mot?
Oui.
Il fait justement, là, comme dans les jeux vidéo de RPG, là, il a cette habilité-là.
Oui, oui, oui.
Il était capable de convaincre les autres par sa personnalité, par sa force, par sa voix, par son caractère puissant. Là,
oui, absolument, parce que c'est ça, c'est... À un moment donné, dans une situation comme ça, c'est la nuit, il fait noir, t'entends des explosions, t'entends des tirs partout, t'entends crier.
Ouais.
Et là, t'as un soldat qui arrive, puis il fait noir.
Exactement.
Tu ne sais pas s'il y en a 20 cachés un peu plus loin ou s'il n'y en a pas. Et là, lui, il arrive, puis il dit, écoute, on est là, on est un régiment complet. Vous êtes coincés, vous êtes cernés. Rendez-vous si vous voulez vivre.
Aïe, aïe.
Rendu là, le soldat allemand, il disait « OK ». Puis il s'en allait dans le petit coin, puis il attendait.
Ah, c'est donc ben fou. J'en reviens pas. C'est Rambo, ça.
C'est la raison, une des raisons pour laquelle on l'a appelé Rambo. Écoute, il y a des faits d'armes comme ça, mais celui-là, c'est le top du top.
OK, oui, oui.
C'est vraiment son fait d'armes. Ça a passé sous le radar pendant de nombreuses années avant que des historiens commencent à creuser un petit peu.
Comment
puis dire, on en a des héros, nous sont aussi ici, là, durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est probablement pas le seul. Là. Si on fait des recherches, on va en trouver d'autres aussi. Mais celui-là, Ça l'a passé sous le radar. Écoute, il a refusé la médaille qu'on voulait lui donner.
Ah ouais!
Il a gagné plusieurs médailles. Il a été honoré souvent. Il a décidé de refuser les médailles. Lui, là, il a fait ça parce que c'était sa job. Puis parce qu'il était pas content, parce que son ami était mort.
Exactement.
Et, écoute, ça fait tellement... On voit ça dans les films.
Ben
là.
Oui, c'est ça.
Tu sais, là, le Rambo qui est magané, puis il n'a plus d'énergie, puis ah. Il voit que son ami est capturé, prisonnier, puis là, tout d'un coup, il est fâché, puis il va gagner. Mais c'est exactement ça qui est arrivé avec
ben
lui.
Ben oui, carrément.
C'est exactement cette scène-là qu'on trouve toujours un peu cocasse dans les films, de dire, bon, il est à moitié mort, qu'est-ce qui va arriver pour qu'il se relève? John Wick aussi, hein, je pense, là, oui. Les films de John Wick, tu sais, qui veut être pacifique, puis tout ça, puis il se fâche, puis il tue tout le monde.
Ben c'est ça.
Ben, on trouve tout le temps ça un peu cocasse, parce que ça revient à répétition dans les scénarios de films d'action, mais lui, c'est vraiment ce qui s'est passé.
Exactement, c'est la réalité. Oh, c'est fou.
Absolument. Alors, c'est assez particulier, là. Écoute, c'est d'autres héros.
Il ben oui, c'est ça.
D'autres, celui-là, là. Il y a pas.
Mais y en a-tu d'autres, des exploits comme ça, militaires?
Ben, il y en a beaucoup. Écoute, il a fait plusieurs choses parce qu'après ça, il était là en guerre en Corée.
OK.
Il a fait la guerre de Corée où, encore une fois, il s'est démarqué. Il y a toujours pas. Son œil gauche n'est pas revenu, là.
Uh-huh.
Fait que lui, il réussit à continuer son service militaire. Écoute, aujourd'hui, là. Tu passes des tests et c'est incroyable, là. Tu peux pas nécessairement rentrer dans l'armée. T'arrives là, puis t'as une patch sur l'œil gauche.
Ben oui, ben oui.
Puis t'as plus l'usage de ton œil gauche, puis tu veux devenir un soldat d'élite, ben de valeur, mais ta carrière, elle commencera même pas tristement.
Ben
à cette époque-là, lui, il a réussi à rester dans les forces armées. Et il a continué à servir. Et il a même fait la guerre de Corée, où il s'est encore une fois démarqué. Il a gagné des reconnaissances, des médailles durant la guerre de
Corée. C'est tellement Rambo, ça. C'est
oui, c'est incroyable. Aïe, aïe. Donc, ouais, c'est ça, il y a quelques... on parle du véhicule allemand, là, je suis en train de regarder le reste de mes notes, quand il a capturé là, les soldats allemands. La ville où il a justement réussi à les libérer aux Pays-Bas, en Hollande, ils ont nommé une rue à son nom.
Ah ouais.
Et maintenant, il y a une journée dans l'année où, la journée où il a...
sauvé cette ville-là.
Sauvé la ville. On commémore sa mémoire.
Ah ouais.
Alors, on commémore la mémoire de Léo Major. On a loué, pas loué, mais nommé une rue. La rue Léo Major.
Ah ouais.
Il est là-bas, là, il est un héros. Un vrai héros reconnu là, visuellement, ben oui. Publiquement reconnu. Léo Major, le petit gars de Longueuil, il est venu nous sauver. Tout seul.
Aïe, aïe, c'est fou ça, ta barouette. Puis, tu sais, comme. Est-ce qu'il a vécu, je me pose cette question-là depuis tantôt, est-ce qu'il a vécu vieux?
Il a vécu jusqu'à 87 ans.
Okay.
Il est décédé en 2008.
Ah ouais.
Alors écoute, là, malgré tout ça,
ben oui.
Écoute, il était pas tuable, monsieur.
Non, c'est ça, exactement.
Il y a un autre fait qui est cocasse. On a parlé de son œil, hein?
Oui.
Ouais, mais là, on a un autre œil, moi, là, fait que je retourne à la guerre, là. Ben, il a aussi eu un problème avec son dos. Il a été blessé très gravement au dos. Il a survécu à une explosion d'une mine anti-char.
Tabarouette. Pourquoi pas?
Déjà, il est pas mort, blessé gravement au dos. Il refuse d'être rapatrié au Canada, malgré sa blessure grave. Et qu'est-ce qu'il fait quand on dit « Non, non, tu retournes pas au front, là, Léo. Tu retournes pas au front. T'es scrap, t'es fini. » Il s'est sauvé de l'hôpital.
Ah ouais?
Il s'est carrément... sauvé de l'hôpital et s'est en allé se cacher chez une famille hollandaise qu'il avait rencontrée plus tôt. Il est revenu parce que c'est un déserteur.
Ben oui, ben
il a quitté l'hôpital sans autorisation. Il est allé se cacher dans une famille. Il dit « Écoutez, vous allez prendre soin de moi le temps que je sois assez en forme pour retourner faire la guerre. » Fait qu'il s'est soigné. Puis ça aussi, on dirait un scénario de film.
Oui,
c'est carrément un scénario de film. Et en mars 1945, il est retourné à son unité. Comme si de rien n'était.
Parce que là, il était rendu capable de se battre. Il n'y avait plus de problème de dos.
Ah oui, c'est ça. Il était correct. Alors, tout ça a mené à son exploit là, du 13 avril 1945, où il a libéré à lui seul le petit village en banlieue de Zwolle en se faisant passer pour un régiment complet alors qu'il était seul.
Aïe, aïe. C'est fou parce que tu en parlais un peu plus tôt, tu sais, les héros oubliés du Québec.
Oui.
Il y en a plusieurs. Puis je m'étais fait dire par ma famille qu'il y a des commandos de l'armée canadienne qui faisait les missions les plus dangereuses et les plus comment dire, qui allait vraiment réussir à arrêter la guerre, en fait. Les commandos canadiens,
ouais,
dont le 22e régiment, il y avait des commandos spéciaux là, qui exécutaient des tâches qu'on ne sait pas. Que ouais, c'est
oui,
caché.
Ben absolument, on avait nos Black Ops, ouais, canadiens et québécois, on en avait beaucoup. Et depuis cette époque-là, dans les forces armées mondiales, Les Québécois, on est reconnus comme des méchants malades.
Oui!
On est reconnus comme étant courageux, fort, qu'on recule devant rien.
Exact.
Et on a une réputation un peu surfaite, là, parce que bon, on appelait il y a certains endroits où on applique ça à la population en entier. On arrive et on dit qu'on est Québécois. C'est comme, ouh, un Québécois.
Oui.
Mais bon, écoute, moi, je n'ai pas fait la guerre et je pense pas que je vais en faire de mon vivant. Mais ça a créé une certaine réputation des Québécois à cause de ça.
Ah,
le Royal 22e, entre autres.
Oui.
Non seulement les blindés du Royal 22e qui ont atteint qui ont réussi à atteindre certaines ou compléter certaines missions, alors que les Américains n'étaient pas capables de les compléter. Mais ça, on ne verra pas ça dans un film américain.
Non.
Alors, il y a beaucoup, beaucoup. Le Royal 22e a fait beaucoup de choses durant la Deuxième Guerre mondiale, tout juste après le débarquement, qui leur ont valu une certaine reconnaissance, mais c'est caché par le fait que. On n'en fait pas, nous autres, au Canada puis au Québec, des grands films de guerre à grand budget.
On n'est pas du genre à se la péter.
Ben non, c'est ça. On n'aura pas un film là, qui envoie les hauts majors avec des explosions partout, là, puis les tanks, puis là, il y a un œil d'arraché, puis ils continuent à se battre, même si. On ne verra pas ça. Et il a perdu un œil, il a eu une blessure majeure dans le dos, puis malgré ça, tout seul, il a libéré un village en faisant 93 prisonniers. Écoute, juste ça. Mets ça dans les mains des Américains, parce que ça, mettons que c'est un Américain, Léo Major, là,
ouais.
Il aurait vécu au Massachusetts.
Il y aurait eu trois films là-dessus.
On aurait des films à pu finir pour dire encore un film sur Léo Major cette année.
C'est ça.
Parce que ça reviendrait à toutes les 3-4 ans à peu près. Alors que là, on le connaît à peine.
Non, c'est ça.
On le connaît à peine. Puis écoute, Léo, je t'ai dit qu'il est allé en Corée.
Oui.
Ben, en Corée, là, il est allé à la guerre de Corée en 1951. La guerre de Corée, c'est une guerre qui est beaucoup moins connue. C'est une guerre qui est relativement sale aussi là, en Corée. Là. C'est un peu comme le Vietnam. Hein? C'est pas des guerres propres. On n'en voit pas beaucoup des films sur ces guerres-là. Parce que c'était pas des guerres le fun. Les Américains n'ont pas super bien paru. Durant cette période-là, les Américains ont perdu une position importante. La position s'appelait Colline 355. Ça, il y en a un ou deux films. Je me souviens plus des titres, mais il y a quelques films à propos de cette colline-là où on voit la défaite américaine et le recul. Mais c'est pas des films populaires, les Américains perdent.
Ben oui.
Finalement, ça pogne pas. Mais ils ont perdu cette colline-là qui était un point stratégique. La colline qui était numérotée, la colline 355, en Corée. Là, on n'est plus à la Deuxième Guerre mondiale. On est 6 ans plus tard du côté de la Corée. On perd cette colline-là, c'est un point stratégique et on n'a plus cette position-là. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive Léo!
Avec son tank!
Hey, Léo et 18 de ses hommes ont repris la colline.
Ah ouais!
Il était 19.
Ben voyons.
Puis ils ont réussi à reprendre la fameuse colline que les Américains n'ont jamais été capables de reprendre.
Ah,
ils n'ont même pas été capables de la défendre. Lui, avec 18 autres hommes, ont été capables de la reprendre. La Chine envoie 2 divisions totalisant 14 000 hommes pour reprendre la colline sans succès.
Ah, ben voyons donc! Oh my God.
Ça finit pas, ça finit jamais.
Ah non, c'est ça.
Mais, j'en sais pas. Après sa période de militaire, j'ai pas beaucoup d'informations sur Léo Major. Je sais pas si sa vie elle a continué d'être ponctuée d'événements exceptionnels comme ça. Mais écoute.
Mais il y aurait clairement, il y a sûrement un livre comme tu parlais d'un livre.
Ben oui, il y a un livre qui a été écrit par M. Lépine qui a écrit un livre, Le Rambo québécois.
Ah ouais.
Léo Major, héros méconnu. Puis vraiment, ce livre-là, j'ai l'intention de l'acheter.
Ben, moi aussi.
Puis je vous le conseille fortement. Là. C'est un. Incroyable. C'est une histoire là, complètement fascinante. Je veux dire, je la raconte, j'ai relu mes notes tantôt avant qu'on commence, puis je dis, ça a juste pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Ça se peut quasiment pas. Mais oui, alors 14 000 hommes qui ont été envoyés pour reprendre la colline n'ont pas été capables. Léo et ses troupes tiennent pendant 3 jours d'assaut constant avant d'être remplacés par d'autres troupes canadiennes envoyées en renfort.
Ah, okay.
Un des soldats est blessé, c'est Léo lui-même qui le redescend de la colline sur son dos.
Pourquoi
ça,
pas?
Ça finit pas, là!
C'est ça.
Et pour avoir repris la colline avec moins de 20 hommes, alors que 10 000 Américains n'avaient pas pu le faire.
Mon Dieu!
Okay, écoute, c'est pour ça qu'on n'entend pas parler ben du côté américain.
Dans le fond, les Américains sont jaloux.
Ils sont gênés un peu,
ouais,
je pense.
C'est ça. Exact.
Tu sais, ça, voir le président américain, ça va pas bien. Appelez Léo.
Ah, c'est ça, exact. Exact.
Alors, Léo réussit, lui, avec 18 hommes, à reprendre une colline que 10 000 Américains, 10 000 soldats américains n'ont pas réussi à tenir. Et avec sa petite gang. Alors, il a reçu une autre médaille, là, l'équivalent de la médaille d'honneur, le Distinguished Conduct Medal. Il avait refusé cette même médaille en Hollande là, quand il avait réussi là, à défendre lui seul ou à délivrer lui seul le petit village de Zwolle qui maintenant là, le voit comme étant un grand, grand, grand héros. On a commencé à le reconnaître au Québec, Léo. Okay. Après qu'il y ait eu sa reconnaissance en Europe, en Corée, on le connaît partout, puis nous, ici, on le connaissait pas. Tranquillement, à Vaudreuil-Dorion, la rue Major est instaurée en 2015 en l'honneur de Léo Major. Il y a le parc Léo Major également, c'est un parc qui a été renommé. Le parc Léo Major, du côté de Longueuil, ça fait pas longtemps, 2018.
Ah ouais.
Donc, écoute, ça leur a pris 70 ans pour reconnaître les exploits Léo Major, qui a été vraiment incroyable. On parle de Léo Major qui a été ajouté à la banque de toponymie montréalaise.
Okay.
Hein, on a une banque de noms à Montréal pour dire, ben là, si on a besoin de nommer certains édifices, certains lieux, certaines rues avec des noms importants, on a ajouté Léo Major, mais on est toujours en attente d'avoir un lieu à Montréal, sa ville, où il a vécu. On n'a toujours rien à son nom. Alors, j'espère que Mme Plante nous écoute, là. Mme Plante! Hey, c'est le temps, là.
Ben oui.
Mais c'est incroyable, cette histoire-là, cette saga-là. Écoute, on a parlé du livre qui a été édité, là, il y a 2 ans, je crois. Léo Major, le Rambo québécois. Donc, c'est Luc Lépine. Voilà, Luc Lépine, auteur et historien militaire, qui a été déterré, cette histoire-là, et qui l'a détaillé.
Ah ouais.
Qui a documenté le parcours absolument incroyable de Léo Major. On a déjà une ville de 50 000 personnes, Zwolle, en Hollande, qui l'honore de manière régulière à chaque année, mais aussi qui ont nommé une rue en son honneur. Et si tu arrives là-bas et tu dis « Hey, moi, je viens du pays de Léo Major », t'es reçu comme un roi. C'est incroyable.
J'ai grandi. Je vais en plus, c'est Montréal, c'est là où j'ai grandi. Puis tout,
ben oui. Et alors, t'avais jamais entendu parler de lui?
Ben, j'avais déjà
le
entendu.
Le nom circule une fois de temps en temps. Souvent, au mois d'avril, par exemple, on va en parler quand c'est proche de la date où il a libéré la ville de Zwolle en Hollande. On va dire, hey, souvenez-vous, c'est un soldat canadien. Là, que... Mais c'est pas plus que ça. Et là, on en apprend de plus en plus. Et grâce au livre de M. Lépine, ça nous permet d'en savoir beaucoup plus là, sur ce parcours absolument exceptionnel que M. Léo Major a fait. Alors, l'avenue Léo Majorlane à Zwolle. C'est un lieu à visiter si vous allez aux Pays-Bas et que vous allez faire un tour là, du côté de la ville de Zwolle. Vous pourrez marcher dans le village, la ville, parce que 50 000 habitants, c'est énorme. La ville que Léo a libérée tout seul. Qu'il était en colère. Il était fâché.
Ben, tu sais, on parle de la fête nationale du Québec, ça, on va se le dire. On a quand même ce tempérament-là au Québec d'être...
On est des têtes de cochon.
Ben, c'est ça.
L'expression « tête de cochon », là, elle vient d'ici... à nous caractériser.
Exactement. On est assez perfectionniste aussi dans nos métiers. T'sais.
Oui, on veut être les meilleurs tout le temps.
C'est ça, exactement.
Puis on se compare souvent. C'est un petit complexe des fois qu'on a peut-être au Québec là, de se sentir, je dirais pas inférieur, mais des fois on a l'impression d'avoir l'impression de qu'on doit se prouver aux autres. On doit montrer notre valeur. Et là, rappelez-vous, hein, jusqu'à l'âge de 14 ans, Léo s'est fait battre en se faisant dire « t'es un moins que rien ».
Exactement.
Tu feras jamais rien de bon dans la vie, Léo. T'es un pas bon, t'es un paresseux, t'es un minable. Et à 14 ans, on dirait qu'il a dit « ok, check bien ça, moi je vais faire de quoi de ma vie ». Mais ce qu'il a fait, écoute, là, c'est 1000 fois ce qu'une personne qui réussit va faire.
Alors c'est ça, exactement. Il était courageux, je pense que
absolument.
C'était vraiment le mot, la qualité qui le retrace bien, là, qui le décrit bien, c'est vraiment le courage, là. Il n'avait pas peur de rien. Un peu comme Rambo.
Absolument. Rambo. Écoute, il reculait devant rien. Puis Rambo, c'est un peu ce qui le caractérise, c'est un personnage fictif. Mais c'est toujours le sentiment de « il s'en va mourir ».
Ouais.
Il s'en va, puis ça ne dérange pas de mourir. Lui, il veut juste faire du trouble. Il veut juste réussir à mettre le chaos chez l'ennemi. Puis dans sa tête, il s'en sortira pas. Puis c'est pas grave. C'est un peu ce sentiment-là qu'on retrouve. Là, son ami est mort, puis au lieu de revirer de bord, comme n'importe qui aurait fait, ce qui aurait été normal de dire, écoute, on était deux, il y en a un qui est mort, je suis tout seul, je suis mieux de retourner en arrière et aller voir mes chums. Mais lui, c'est le contraire. Il a dit, vous avez tué mon chum, vous allez payer pour. Et il a complètement là, la peur de mourir, la peur d'avoir mal, la peur d'être blessé, la peur d'être capturé. Ça l'a complètement quitté.
Exactement.
Et tout ce qu'il faisait, lui, c'était... je vais capturer des âmes. Et c'était son focus. Et c'est tout ce qu'il a fait pendant une nuit complète. Il a libéré une ville de 50 000 personnes en faisant 93 prisonniers allemands. C'est incroyable.
C'est fou, ça me rappelle aussi, tu sais, quand on dit, quand on est tellement convaincu nous-mêmes d'une chose, cette chose arrive, tu sais. C'est un peu ça, là, quand t'es tellement convaincu, tu sais, que t'as raison, puis que ça va marcher, puis qu'il y a personne, tout le monde te dit le contraire, puis que tu y vas, puis que ça marche. C'est comme un peu d'amener cette énergie-là à toi. Puis, je sais pas comment le dire, là, mais ça me fait un peu penser à ça.
Mais un peu comme on disait, hein, écoute, quand t'es tellement convaincu de quelque chose, tu peux... On fait de la radio, Tristan.
Ouais.
On va donner un truc, peut-être pas un truc, mais un secret de la radio, c'est que des fois, on va faire des entrevues sur des sujets qu'on maîtrise zéro.
Ouais.
Qu'on connaît pas du tout.
Uh-huh.
La joke, c'est faut pas que ça paraisse.
Non, c'est...
Alors, on a l'air convaincu, puis on fait attention de pas mal paraître. On jauge nos questions avant de les poser, puis de dire, OK, je vais-tu avoir l'air d'un épais si je pose cette question-là? Alors, souvent, on va écouter l'entrevue, puis on dit, mon Dieu, Tristan connaît ça, le saumon. Ah, mais qu'il connaît la pêche au saumon, Tristan, il a dû en faire
beaucoup. Alors que j'étais juste de lire l'article, il y a 3 minutes.
Et voilà, alors que tu as lu quelques documents rapidement, là, en diagonale, avant de faire l'entrevue avec la personne, mais tu t'es préparé pour avoir l'air convaincant.
Exact.
C'est un peu de même que je le vois. C'est qu'il était tellement convaincant qu'il y a personne qui osait le contredire. C'est comme, il sait ce qu'il fait, et boy, je t'ose bien d'écouter. Et c'est un peu ce qui a permis de faire ça. Mais écoute, il aurait pu se faire tuer 3 secondes après qu'il est rentré dans le village aussi. Il aurait pu avoir 4 Allemands qui disaient, il est tout seul, paf, fini.
Exact.
Ça aurait pu arrêter là. Mais non, il a vécu jusqu'à l'âge de 87 ans, le major. Et il a eu une très belle vie. Et il a été honoré. Un régiment de la Chaudière, rapidement, a créé un trophée en son honneur. Le trophée Léo Major. Et il décerne annuellement la compagnie la plus efficace.
Ok.
Écoute, il peut pas être plus efficace que ça. Avec 18 gars, il a libéré une colline que 10 000 soldats américains n'avaient pas été capables de garder. Il a reçu la médaille de l'Assemblée nationale à titre posthume en 2013, là, 5 ans après son décès. Il a reçu la médaille de l'Assemblée nationale lors de la commémoration québécoise du jour du souvenir de la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc voilà, il a été aussi honoré dans certains jeux vidéo. Nécessairement sous le nom de Léo Major. Par contre, ce qui est un peu plate, je trouve ça dommage. Il y a peut-être des questions légale, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Il y a un jeu, je pense que, écoute, là, je me mets la tête sur le bio, mais il y a un vieux jeu Call of Duty qui n'est pas du tout dans le même type de qu'est-ce qu'on voit là, à cette heure, là, qui en sortant un par année, puis qu'il coûte 400$ si tu veux tout avoir. Là. Mais dans le temps où c'était des jeux à un joueur, avec, on avait comme une campagne à un joueur, puis c'était en Deuxième Guerre mondiale, je me souviens d'avoir joué à un jeu, à une version de Call of Duty, là, dans les premiers qui sont sortis,
ça me dit quoi?
Où il y avait un soldat québécois qui était un méchant malade, qui rentrait tout le temps dans le tas.
Ah ouais.
Et il y avait le fameux accent typique, là, tu sais, là, l'accent un peu qu'on entend partout quand on veut faire un personnage québécois. Ouais, moi, tu vas voir, je vais rentrer dans le tas, mon petit gars. Puis, il parle de même dans le jeu. Et vraiment, là, c'est le soldat. Il y en a un Québécois dans tout le jeu, c'est lui. Puis c'est un matamor, c'est un malade. Il rentre dans le tas, il a pas peur de rien, il a rien pour l'arrêter. C'est un gros tough. Là,
un
pis,
berserker.
Ah ouais, un vrai de vrai, là, qui tue tout le monde. Puis lui, là, il y a un tank qui arrive, pas grave, m'a foncé dedans. Pis, on l'a honoré comme ça dans la culture populaire. Mais souvent, il n'y aura pas le nom de Léo Major. Alors, je trouve ça un peu dommage. Mais il y a certains jeux vidéo où, oui, on a un personnage qui s'appelle Léo Major. Et il va faire partie de la culture populaire, je pense, avec ce livre-là et avec le fait qu'on commence à en parler un peu plus en détail. On ne fait plus juste dire « Soldat québécois qui a libéré un village ». On commence à connaître un peu plus les détails de comment ça s'est passé, à quel point c'est exceptionnel ce qu'il a accompli. Je pense que tranquillement, pas vite, là, on va peut-être avoir de quoi. Moi, j'aimerais ça qu'un...
Ben oui.
On en a là, des producteurs québécois là, de films là, qui font des vrais
ben
films
oui, c'est
très
ça.
Populaires.
Exactement,
là,
c'est ça que je me
style américain de films, là. Prenez donc Léo Major. Là,
ben
puis,
oui.
Vous n'avez même pas de scénario à écrire.
Ben non, c'est
vous
ça.
Vous prenez sa vie, vous coupez ça en 2 heures, puis vous me faites un film avec
tout est une question de plan de vue. La absolument. Réalisation, et si la réalisation est bien faite, ça peut être épique, là, sans gros budget. Là.
Non, absolument, absolument.
Le moyen de, ça, le moyen de créer de quoi, là?
Tout à fait. Alors, Léo Major, le héros québécois de la Deuxième Guerre mondiale, un parcours incroyable, vraiment. Là. J'en parle, puis je suis comme tout.
Ben,
oh, mon Dieu!
Le goût de me faire tatouer son...
sur le chest. Léo Major!
ça me fait penser, Jason, je décrirai pas toute l'histoire, mais peut-être que j'en reviendrai dans un dossier bizarre avec. Connais-tu Louis Coulon de Villiers?
Non!
Les frères Coulon de Villiers, c'est des Québécois qui sont nés à Verchères,
d'accord.
À mon coin, là, mon patelin.
Oui, absolument.
Ça, c'est une histoire qu'on parle beaucoup, c'est en 1710, durant la colonisation, que ça, c'est vrai, là, c'est vrai. Il y a des historiens qui se sont penchés là-dessus, puis c'est même enterré. On l'enterre, cette histoire-là, parce que les Américains y haïssent ça. le premier président des États-Unis, George Washington, s'est déjà agenouillé devant... Les frères Coulon de Villiers.
Mais ça, c'est quand les États-Unis ont tenté de prendre un peu d'expansion vers le nord et se sont fait bloquer par les Canadiens français de l'époque.
Pour vrai, ça doit être ce genre d'histoire-là, là, parce que c'est long comme description, mais je sais qu'il y a eu escarmouche. Il y a eu justement une prise de bec entre les Américains et certains Français. Puis il y a eu un massacre. Et le frère Colomb-Coulon de Villiers a perdu tous ses frères.
D'accord.
Donc, pour se venger, il s'est entendu avec quelques autochtones. Et puis, la nuit, il a foncé dans le tas. Et il était comme 10 fois moins nombreux. C'est ça qui est marquant dans le côté historique. Oui. La rage.
Ah, c'est incroyable.
La rage du frère Coulon de Villiers qui a perdu ses frères au combat. A fait en sorte qu'ils étaient 10 fois moins nombreux que l'armée de George Washington, mais ils ont gagné. Avec quelques Autochtones, ils ont gagné et il a obligé George Washington à s'excuser à genoux devant lui. Hey. Puis le premier président des États-Unis s'est déjà agenouillé et s'excusé devant un Canadien. Devant
je sais que les Américains ont perdu la face un peu à cette époque-là. Bon, justement avec George Washington, quand ils ont tenté de prendre l'expansion, parce que bon, ils étaient, eux autres étaient sur le high de leur victoire et de leur liberté, et ont tenté de prendre l'expansion un peu partout. Puis c'était des conquérants, hein. On voulait conquérir l'Ouest américain, mais on a voulu tenter vers le nord un peu, et ils se sont vraiment butés à une opposition qu'ils n'attendaient pas, et ont décidé d'abandonner le projet assez rapidement. Donc c'est probablement que c'est en lien un peu là, avec cette histoire-là. Ça serait le fun de la creuser un petit peu.
Ben oui, exact. Ben je vais la creuser, puis je reviendrai avec ça, c'est clair.
Hey, ben c'est donc bien le fun, là, on fait l'histoire.
Exactement, parce que des fois, on parle souvent des défaites dans le passé, mettons, de la défaite sur les plaines d'Abraham, tout ça, puis... c'est pourquoi, bon, après ça, on est devenu le Canada, parce que si on avait gagné cette bataille-là, peut-être ça aurait été changé, mais on parle souvent des défaites militaires. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi des victorieux, des guerriers.
Techniquement, la seule guerre ou la seule escarmouche militaire qu'il y a eu réellement entre le Québec et les États-Unis, ou le Canada et les États-Unis, c'est nous autres qui le gagnent. C'était pas une super puissance comme ça aujourd'hui, mais on peut quand même dire qu'on les a déjà battus.
Non, c'est ça, exactement. C'était bien intéressant, c'est le fun, ça change un peu d'optique. Là,
ça permet d'aller explorer d'autres choses, mais je pensais que, bon, l'histoire de Léo était... C'est tellement extraordinaire ce qu'il a fait, ça frôle le mythe.
Ben oui, c'est ça.
C'est que ça frôle la légende, alors que c'est des faits prouvés, vérifiables. Si on va à Aswall, il y a une rue qui s'appelle Léo Major, là. C'est pas inventé, c'est pas « ouais, mais peut-être qu'on a exagéré ». Non. Eux autres, là, Léo Major, c'est leur dieu, là. C'est lui qui les a sauvés des Allemands, c'est lui qui les a sauvés des nazis. Alors, c'est pas inventé, c'est prouvé, c'est facile. Si vous allez à Aswall, allez-y, vous allez voir la rue Léo Major. On l'honore. C'est vraiment tout arrivé, ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Mais quand on le raconte comme ça, je pourrais dire, hey, va te conter une histoire d'un film pas pire. Puis je pourrais raconter ça, puis les gens diraient, hey, ce film-là, il n'y a pas d'allure. Ben oui, il y a de l'allure, ce film-là, parce que c'est vrai ce qui est arrivé. Ah, c'est malgré vrai. Tout ce qui peut être complètement, là, ça peut être tellement perçu comme une exagération, alors qu'en réalité, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui est arrivé à Léo Major. Et il a refusé sa médaille pour la libération. Il a tout simplement dit « Je faisais mon travail. »
Ah, c'est fou. Peut-être en finissant, Jason, on va rire. Oui. C'est un vétéran québécois qui...
Je sais pas si...
On va le faire entendre tout de suite pendant le podcast.
Oui.
On va écouter ça.
Je sais, quand j'ai débarqué du bateau, les Français m'ont dit qu'il y avait à peu près 10 pieds d'eau. Moi, je mesure 4 pieds et 11. Donc,
ça fait beaucoup d'eau.
Il y en avait beaucoup à emballer. Et puis, il fallait pas mouiller notre rame. Alors, c'était fait. Je l'ai mouillé pour vrai.
Attends.
Fait que, ouais, j'ai trouvé un lance-flamme à terre. Je ne sais pas si c'était allemand ou canadien, je ne sais pas. J'ai donné un coup de pied après, il fonctionne. Il est tout toasté.
Je les ai toutes toastées. Tu sais qu'on voit que le bonhomme, là, ça a l'air vrai ce qu'il dit. Là,
ben, c'est ça, puis des histoires comme ça, c'est anecdotique, mais en même temps, je veux dire, Léo Major, c'est qu'il y a tellement d'événements, un par derrière l'autre. Je veux dire, la même journée, il a défait un bunker, puis après ça, il a capturé un tank qui était rempli de codes. C'est comme, exact. Ça se peut quasiment pas, c'est toute l'anecdote rendue là, mais des histoires comme ça, il y en a plein. Hein. On a tous eu, puis là, ben, il en reste pas beaucoup là, des gens qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, mais dans notre famille, on a tous un mononcle, une matante, un grand-père, quelqu'un qui l'a vécu. Il y en a qui ont été au front, qui nous ont raconté. J'avais un voisin, moi, il était mitrailleur, le genre de grosse mitraillette où il y a une ceinture de balles, et là, ils doivent être deux pour les opérer. Il y en a un qui envoie les balles, qui tient la ceinture. Et il me racontait, là, quand il tirait, le gars à côté de lui qui tenait la ceinture a reçu une balle en plein front. La tête lui a explosé. Lui doit continuer à tirer pareil.
Oh my God.
Là, quelqu'un d'autre tasse le corps, prend la relève. Et pour eux autres, c'était ça.
Non, c'est
et il nous racontait ça avec un calme incroyable. Nous autres,
c'est comme
dégueulasse qu'il raconte.
On a une écharpe dans le. Ouais, on a une écharpe.
Oh
dans
non, on va mourir, je pense. Exact. Eux autres vivaient ça là, au quotidien. Alors, il y en a plein des histoires comme ça. Et de mettre en valeur un seul personnage comme ça, juste par les exploits qu'il a fait. Mm-hmm. Moi, ça me fait réaliser qu'il y en avait plein autour de lui aussi. Ben oui. D'autres jeunes Canadiens français qui étaient dans le même régiment, qui ont fait des choses incroyables aussi.
Pendant que Léo... Léo, j'arrête pas de penser à Léo Ferré.
Léo Major,
il est en train de jean le bunker. T'avais l'autre vétéran québécois qui avec son lance-flamme qui est en train de
tout. C'est ça, il était peut-être dans le même régiment. C'est tout ça mis ensemble qui nous fait montrer que ce qu'on voit dans les films, ce qu'on voit dans les séries, c'est tellement, tellement centré sur l'effort de guerre américain. On en oublie un peu qu'on en a envoyé plein de jeunes hommes, nous autres aussi, des jeunes femmes mourir au front durant cette guerre-là et qu'il y en a qui se sont démarqués d'une manière incroyable. J'aurais de la misère à vous dire, est-ce qu'il y a un seul soldat américain là, dans les 150 000, 200 000, 500 000 qui ont été envoyés qui a fait autant que juste lui? Je ne sais même pas s'ils sont capables d'en trouver un, eux autres, dans leur histoire. Mais lui, on n'entend pas parler, alors que le Easy Company qui ont parachuté en arrière des lignes, il y a eu des séries complètes sur eux. Ils sont dépeints comme des héros incroyables, alors que là, nous, on en a un, puis on n'avait à peu près jamais entendu parler. Non, alors, j'espère maintenant que vous en connaissez un petit peu plus sur un héros de notre coin, mais de nos amis français, ben, vous venez d'apprendre peut-être aussi qu'on avait un soldat vraiment là, avec une trempe exceptionnelle durant la Deuxième Guerre mondiale, âgé à peine de 23 ans.
Incroyable. Merci beaucoup, Jason. Hey, c'était super pertinent.
Ça. Ah oui, j'ai bien aimé celle-là.
C'est vraiment le fun. Moi, je vais aller fouiller. Je vais m'acheter le livre, c'est clair.
Ah oui,
moi
aussi. Absolument. Je vais essayer de le trouver. Peut-être voir à la bibliothèque ici, là, si on peut mettre la main dessus. Mais vraiment, là, Léo Major de Luc Lépine, le soldat, un soldat qui a été plus ou moins oublié dans l'histoire et que là, tranquillement, pas vite, on commence à redécouvrir là, ses exploits.
Merci beaucoup, Jason.
Ça fait plaisir.
Merci à vous d'avoir été là. Et c'est un rendez-vous à toutes les semaines. Il nous en reste encore quelques-uns, bien sûr, des épisodes. Là, on vous revient avec d'autres dossiers bizarres.
Ben oui, on aura peut-être une petite pause là, d'une semaine ou deux, le temps que Tristan s'installe dans ses nouveaux. Son nouveau logis, d'ailleurs. C'est triste parce que c'est la dernière fois qu'on enregistre.
Ben oui, écoute.
Dans le même studio. Alors,
Oh, avec la technologie, on va être capable. Absolument. J'en doute pas. On est en 2020.
C'est on pas a trop de fun, là. On peut pas
exactement.
Arrêter.
Mais pour vrai, des fois, notre époque, 2020, je trouve ça le fun. Je m'inquiète même pas. Je sais
non, absolument.
Je vais me trouver du stock, du matériel sonore, puis on va être capable de continuer à faire ça. Là, puis, ça va être super. Là. On va peut-être perdre un petit pourcent de qualité, mais encore là, peut-être même pas.
On verra bien comment ça verra. Mais moi, je peux dire, je suis très content qu'on ait croisé nos chemins, Tristan.
Ben oui,
parce que
aussi.
Ça nous a permis d'avoir ce petit projet-là qui devait être quelques épisodes d'une quinzaine de minutes qui est rendu un méga podcast écouté par des dizaines de milliers de personnes.
Ben oui,
vraiment,
totalement.
Là, très, très content du résultat final de tout ça et de la direction que ça a pris.
Ah non, je déménage, je quitte le Nord, mais sachez là, que Dossier Bizarre n'est pas fini, aucun nom.
Ah ben non, okay, non. Il faut pas. Hey, ben merci tout le monde d'aller aimer notre page Facebook, partager le podcast. Il y a plein de gens qui le découvrent hein, là. Fait que là, ils ont comme 38 épisodes à écouter. Ils sont tout contents. Puis là, ils nous envoient des messages pour dire qu'ils rêvent à nous autres la nuit.
Ah, c'est ça, exactement. Vous avez du stock en masse pour à peu près 40 heures de podcast. Fait que...
Absolument. Hey, merci beaucoup.
Merci à vous. Salut Jason. Merci à vous.
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de.
Tu as un traîneau, mais tu aimerais y faire des modifications pour y donner un petit look racing? Alors viens nous voir au garage Pole Position. Pour pimper ton traîneau, on a des wipers, des bumpers, des spoilers et des mufflers qui sonnent comme un hamster asthmatique quand tu changes de vitesse. Le garage Pole Position. Le garage préféré du Père Noël.